On a lu la lettre de la prisonnière. Maintenant, on va lire les pensées que contenait le manuscrit joint à cette lettre. Souvenirs et pensées d'une exilée. Italie. Italie, qui empruntes à deux mers la ceinture bleue des vagues pour voiler tes beaux flancs. Italie, qui pour orner la tête possède le fier bandeau de toutes les neiges alpines. Terre doublée de volcans, terre revêtue de roses, je te salue et je pleure rien qu'en pensant à toi. Ton ciel radieux d'étoiles, tes brises parfumées dont une seule haleine effacerait un deuil, ton écrin de beauté, présent de la nature, ton écrin de génie, hommage de tes enfants, tes harmonies, tes joies et jusqu'à tes soupirs appartiennent aux heureux. Moi, je suis malheureuse, je ne te verrai plus. 1844, Villers-Cellon. Bon ange gardien des jours de mon enfance, toi que ma prière le soir appelait vers mon berceau, bon ange, aujourd'hui ma voix t'invoque encore. Va, retourne sans moi là où je fus aimé. L'étang sert-il toujours de miroir aux tilleuls? Les nénuphars d'or voguent-ils tes jours sur les eaux à approcher du soir? Bon ange, ta douce égide veille-t-elle toujours près de ces rives fatales au jeu des petits enfants? Vois-tu le tronc noueux de l'aubépine rose qui fleurit la première au retour du printemps? Chère aubépine, j'atteignais ces rameaux avec le bras de mon père pour en saluer la fête de l'aïeul bien-aimé. Retrouves-tu les roses préférées de ma mère, les peupliers plantés le jour où je suis né? Nos noyers bordent-ils encore les chemins du village, et leur ombre va-t-elle passer les pompes de Marie? Le temps respecte-t-il l'humble église gothique dont l'aube est de pierre, dont le Christ est d'ébène? Une autre à ma place, et en mon absence, suspend-elle en feston les bluets et les roses aux frêles arceaux du sanctuaire? Bon ange, parmi les fleurs, sous un rideau de saule, vois-tu la tombe où dormaient mes morts tant pleurés? Leur bonté, leur survie, les pauvres les visitent et mon âme s'envole de l'exil pour y prier. Je vais où va la feuille que le tourbillon entraîne. Je vais où va le nuage que la tempête emporte. En deuil de ma vie, morte à l'espérance même, je ne reviendrai plus où j'ai laissé mon cœur. Bon ange, sème les roses sur les tombes de nos pères. Donne les parfums aux fleurs qui s'effeuillent à leurs pieds. Fais que ce soit moi qui pleure, non seulement mes larmes, mais encore celles des vies sœurs de ma vie, afin que l'on reste heureux là où je les ai aimées. Ô vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. Jérémie. Affliction. Seigneur, voyez mon affliction. Je compte avec mes larmes les jeunes heures de ma vie. Je n'attends rien au matin, et quand, après l'ennui du jour, revient la tristesse du soir, Seigneur, je n'attends rien encore. Mon berceau fut béni. Je fus aimé, enfant. Jeune fille, je vis le respect des hommes s'incliner sur mon passage. Mais la mort prit mon père et son dernier baiser glaça le premier sourire sur mon front. Malheur aux orphelins. Étrangers sur la terre, ils savent aimer encore et ne sont plus aimés. Ils rappellent aux hommes le souvenir des morts, et les heureux les jettent dans des luttes du monde sans même les armer d'une bénédiction. Malheur aux orphelins. Les nuages s'amassent vite sur ces pauvres existences que nul ne protège, que nul ne défend. À la veille de vivre, moi, je pleurais ma vie. À la veille d'aimer, hélas, je portais déjà le deuil de mon cœur bonheur. Tous ceux qui m'étaient chers ont détourné la tête, ils se sont isolés dans un superbe mépris. Et quand je criais vers eux, ils m'appelaient maudite parce que je criais du fond de l'abîme. Et cependant, mon Dieu, vous le savez, vous, je n'ai point échangé ma robe d'innocence contre la ceinture d'or du péché. Seigneur, mes ennemis m'insultent. Dans leur triomphe, ils bravent le remords et se rient de mes pleurs. Mon Dieu, hâte pour moi le jour de la justice. Mon Dieu, daigne servir de père à l'orpheline. Mon Dieu, daigne servir de juge à l'opprimé. Deuxième anniversaire, minuit 15 juillet 1845. Les haleines de la nuit apportent des rêves à l'homme et la rosée aux fleurs. Dans les bois, la source murmure un cantique d'au sommeil. Sous les lilas, le rossignol chante et sa voix qui dit à la rose « Je t'aime » fait sourire d'espérance, fait pleurer le regret. À travers les nuages, la lune glisse et projette mille visions d'opale sur les prés. L'écho répond par un soupir au soupir qu'il écoute. La pensée se souvient, le cœur aime, l'âme prie, et les anges recueillent pour les confier à Dieu nos plus nobles pensées, nos plus saintes prières, nos plus chastes amours. J'aime le soir, j'aime les brises parfumées qui portent mes larmes aux morts, mes regrets aux absents. J'aime le soir. J'aime ces pâles ténèbres qui retranchent un jour au jour de mon malheur.
Amitié. L'amitié consiste dans l'oubli de ce que l'on donne et dans le souvenir de ce que l'on reçoit. Février 1847. Le soleil, astre roi du bonheur et du jour, éblouit les regards de l'homme. Les étoiles, douces filles de la solitude et de la nuit, attirent les pensées vers le ciel. Le soleil, c'est l'amour qui fait vivre. L'étoile, c'est l'amitié qui nous aide à mourir. Jeune, j'ai salué le bonheur, j'ai salué l'espérance. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'en la douleur et qu'en l'oubli. Le temps a effacé la chimère de mes rêves. Ô mon étoile, ô ma sainte amitié, je n'aime plus que toi. Toutes mes larmes se séchaient au rayon d'un sourire. Le sourire s'est éteint. Un cœur battait pour moi et seul contre la haine savait bien me défendre. J'écoute, la haine s'agite encore, mais le cœur ne bat plus. Ah, âgé. Enfant, vous demandez pourquoi ma tête penche sur mes froids barreaux et vers quelle région ma pensée s'élance à cette heure où le jour s'éteignant dans la nuit, la nature s'endort et l'angélus chante l'hymne sainte de Marie. Mes pensées, oh combien elles sont loin de la terre, pour elles plus d'espérance, pas même un regret. Je suis morte ici-bas et pour revivre encore, je souffre, je pleure, je prie, et doucement aux méchants, je pardonne pour que Dieu en m'aimant bénisse mon malheur. Je ne veux pas haïr. L'amour, c'est l'harmonie qui fait vibrer aux âmes au sein du Seigneur. L'amour, c'est notre loi et notre récompense. C'est la force du martyr, la palme de l'innocence. Je ne veux pas haïr. La haine éteint l'amour, et l'amour, c'est la vie. Jeune âme qui m'aimez, puissiez-vous être heureuse. Ma prière vous garde, ma pensée vous bénit. Espérez un bonheur, et s'il faut que vos yeux connaissent aussi les larmes, hélas, souvenez-vous que, sur la terre d'exil, le sentier le plus rude est celui qui conduit tout droit vers notre patrie du ciel. La vie est une épreuve. Nous vivons pour mourir. Peu importe la vie, et quand viendra le soir, si ma tête se penche tristement sur mes froids barreaux, enfant, ne pleurez pas, mon cœur est innocent. Le ciel a des étoiles et Dieu a la justice pour le triomphe de la vérité. Mort, 2 novembre 1848. Heureux, vous calomniez la mort. Aveuglé par la peur de la libératrice, vous faites une homicide de la Vierge des tombeaux. Vous lui donnez pour tunique la toile du linceul. Vous dites ses ailes si noires, son regard si terrible, qu'il pétrifie vos joies. Mensonge, calomnie, la mort, c'est le repos, la paix, la récompense. C'est le retour au ciel où les larmes sont complets. La mort, c'est le bon ange qui fait grâce de la vie à toutes les âmes en peine, à tous les cœurs brisés. Souvent, quand vient la nuit, quand les heureuses femmes sourient avec amour à leurs petits-enfants, moi qui ne suis pas mère, je l'appelle, je pleure, et si j'avais des ailes, ô mort, je m'enfuirais vers toi. Tu ne m'effrayes pas. Visite l'exilé, murmure à mon oreille les promesses d'en haut. Confie-moi tes secrets, dis-moi les harmonies, viens, je t'écoute. Dis-moi si pour trancher nos existences, tu te sers d'un glaive, d'un souffle ou d'un baiser. Mort, tu n'as d'aiguillon que pour les coupables. Mort, les désespoirs n'atteignent que l'impie. Terreur du méchant, refuge de l'opprimé. Si tu cites le crime au tribunal du Christ, mort, tu ramènes au ciel l'innocence et la foi. Et maintenant, croyez-vous que le cœur où sont écloses ses pensées est médité un empoisonnement? Maintenant, croyez-vous que la main qui a tracé ces lignes et présenter la mort à un homme entre un sourire et un baiser? Oui? Alors, comment Dieu n'a-t-il pas foudroyé l'hypocrite au moment même où elle le prenait à témoin de son innocence? Arrivé après son jugement prononcé à Montpellier, le 11 novembre 1841, Marie Capelle en est sortie le 19 février 1851, c'est-à-dire après 9 ans et demi de captivité. Ce sont ces 9 ans et demi de captivité que raconte jour par jour, heure par heure, minute par minute, les heures de prison. C'est dans ce livre, où je ne dirais pas, dont nous rendons compte, on ne rend pas compte d'un pareil livre, on le lit et l'on dit aux autres, lisez-le. C'est là que vous trouverez, jaillissant, plaintive à chaque ligne, une de ces grandes vérités morales que nos législateurs appellent un paradoxe, à savoir que la prétendue égalité devant la loi n'existe pas. L'égalité de la peine, bien entendu. J'ai été lié avec le vieux docteur Larrey, celui que Napoléon, à son lit de mort, appelait le plus honnête homme de France. Aussi lié qu'un jeune homme peut l'être avec un vieillard. Eh bien, je comparerai l'inégalité de la punition morale à ce qu'il m'a dit de l'inégalité de la douleur physique. L'arrêt était peut-être, depuis Esculape jusqu'à nous, l'homme qui avait coupé le plus de bras et le plus de jambes. Napoléon l'avait promené sur tous les champs de bataille de l'Europe, de Valladolid à Vienne, du Caire à Moscou, et Dieu sait la besogne qu'il lui avait donnée. Il avait amputé des Arabes, des Espagnols, des Français, des Prussiens, des Autrichiens, des Russes, des Cosaques. Eh bien, il prétendait que la douleur n'était qu'une question de nerfs, que l'opération qui faisait jeter des cris aigus à l'homme irritable du midi tirait parmi fois un soupir à l'organisation apathique de l'homme du Nord. Que, couchés l'un à côté de l'autre sur leur lit de douleur, L'un mettait en morceaux, entre ses mâchoires crispées, un mouchoir ou une serviette, tandis que l'autre, fumant tranquillement, ne brisait pas même le tuyau de sa pipe. À notre avis, il en est de même de la punition morale. Ce qui est une simple punition pour une femme vulgaire, pour une organisation commune, devient une torture atroce, un supplice insoutenable pour une femme du monde, pour une organisation distinguée. Remarquez que le crime chez Madame Lafarge, et vous le voyez, je continue de me mettre au point de vue de la loi qui a décidé que le crime existait, remarquez, dis-je, que le crime a été commis par l'exaspération d'une extrême délicatesse, d'une aristocratie exquise. Une jeune fille qui, comme les Monmouth ou les Berwick, compte des princes, des rois même parmi ses aïeux. Une jeune fille qui a été élevée dans la soie, la batiste et le velours, dont les petits pieds ont foulé, dès qu'ils ont pu marcher, les tapis ouatés de buissons, et les tapis autrement doux d'un gazon anglais dont un jardinier prévoyant a enlevé d'avance jusqu'au moindre caillou, jusqu'à la plus petite ortie, qui a toujours vu l'avenir comme un paysage d'Orient encadré dans les rayons d'or du soleil. Figurez-vous cette jeune fille, jetée tout à coup dans une condition inférieure, en face d'un homme sale, squalide, grossier, dans une habitation qui n'est qu'une ruine, et quelle ruine! Non pas la ruine pittoresque des bords du Rhin, des montagnes de la Souabe ou des plaines de l'Italie, mais la ruine plate, humide et vulgaire de la fabrique. Obligée de disputer aux rats qui la visitent la nuit, les pantoufles brodées d'or, les cornettes garnies de dentelles qui se sont égarées avec elle dans cette espèce de désert sauvage, inculte, inhospitalier, où la pousse un des mauvais vents de la vie. Eh bien, ce milieu dans lequel grouille, respirant, parlant, agissant à son aise, la famille Lafarge, il lui faut à elle un effort surhumain pour y vivre. C'est une lutte de tous les jours, c'est une déception de toutes les heures. Là où l'autre nature, la nature vulgaire, basse, commune, trouve le bien-être, l'amélioration relative, sa nature, à elle, trouve le désespoir. Puis un jour arrive où la vertu de la femme est éteinte, où la force de la chrétienté est épuisée, où la colombe devient vautour, la gazelle tigresse, où l'on se dit « Tout, la prison, l'exil, la mort, tout, plutôt que cette vie impossible où la main de la fatalité a mis non pas un mur de fer, de bronze ou d'airain, mais un lac, une mer, un océan de boue entre moi et l'avenir. » Et un sombre matin, un soir lugubre, le crime se trouve avoir été commis, inexcusable aux yeux des hommes, mais peut-être excusable aux yeux de Dieu. Je demandais à un juré, « Croyez-vous, Madame Marie Capel, coupable ?»« Oui. » « Et vous avez voté pour la prison ?»« Non. » « Expliquez-moi cela. » « Eh, monsieur, la malheureuse n'avait fait que se venger. » Le mot est terrible, mais en supposant Marie Capel le coupable, il résume bien, ce nous semble, les circonstances atténuantes au milieu desquelles il a été commis. Eh bien, voyez, la même peine, la peine de la détention à perpétuité, est imposée à cette femme d'une organisation supérieure, dont le crime même est le fils de cette organisation. La même peine est imposée à cette femme qui serait imposée à une vachère, à une balayeuse des rues ou à une revendeuse à la toilette. C'est juste puisque le code porte égalité devant la loi. Mais est-ce équitable? Là est la question. Marie Capel sort de Tulle. Marie Capel arrive à Montpellier, au milieu des populations qui se pressent autour d'elle, qui s'amassent autour de sa voiture, qui brisent ses glaces, qui lui montrent le poing, qui l'appellent voleuse, empoisonneuse, homicide. En arrivant à Montpellier, en entendant gronder la grille de la prison sur ses gonds, grincer dans les tenons les verrous des portes, elle s'évanouit. Et cela pour se réveiller dans une cellule à la fenêtre grillée, aux carreaux de pierre, au plafond de latte, tremblant la fièvre dans un lit de fer entre des draps grossiers et humides, sous une couverture de laine grise qui a déjà usé deux ou trois prisonniers, sans que les prisonniers soient parvenus à l'user. Eh bien, cette chambre au mur blanc, à la fenêtre grillée, au pavé de pierre, au plafond de latte, c'est un palais pour beaucoup de pauvres gens, mais c'est un cachot pour elle. Cette couche de fer, ces draps grossiers et humides, cette couverture grise, usée, trouée, dans le tissu de laquelle le froid tue la vermine. C'est un lit pour la mère Lecouf, c'est un grabat immonde pour Marie Capelle. Et ce n'est pas le tout. Cette femme, qui a autour d'elle la dégradation, la misère, le froid, a au moins sur elle un peu de chaleur, du linge fin, des habits comme tout le monde. Elle peut croire qu'elle est là par hasard, qu'un jour cette porte massive s'ouvrira pour la laisser passer, qu'un jour les barreaux de cette fenêtre s'ouvriront, sinon pour son corps, du moins pour son âme qui aspire au ciel. Non, cette dernière illusion qu'elle doit à une chemise de batiste, à une robe de soie noire, à une collerette de linge blanc, à un ruban de velours mis dans ses cheveux, le règlement de la prison vient la lui ôter. Une sœur lui arrache son bonnet. Deux autres veulent la revêtir de la robe de bure, de la robe pénitentiaire, de la robe de la prison. Alors, comme Charles XII à Bender, elle se couche. Elle déclare qu'elle restera dans son lit, dans ce lit misérable où elle a tant hésité d'abord à s'étendre. Qu'elle vivra dans son lit, qu'elle mourra dans son lit, plutôt que de revêtir la robe infâme. Veut-on voir la lettre qu'elle écrivait à cette occasion à son oncle, M. Collard, ou au père de M. Eugène Collard, mon hôte en Afrique? Tenez, la voici. Mon cher oncle, si c'est folie de résister à la force quand on est renversé, de combattre encore quand on est vaincu, de protester contre l'injustice quand nul ne l'entendra. Si c'est folie que de vouloir mourir debout, quand pour mesure d'une vie il ne reste hélas que la longueur d'une chaîne, plaignez-moi, mon oncle, je suis folle. J'ai passé toute la soirée d'hier et toute cette nuit à familiariser mon cœur et ma conscience avec le joug nouveau qu'on leur impose. Il est trop lourd. Mon cœur et ma conscience se révoltent. J'accepterai de la loi des rigueurs qui peuvent me tuer plus vite, mais je n'accepterai pas les humiliations qui n'ont qu'un but, me dégrader et m'avilir. Écoutez-moi, mon bon oncle, et croyez-le, ce n'est pas devant la douleur que je recule. De mon lit à la cheminée, il y a 16 de mes pas. De la porte à la fenêtre, il y en a 9, je les ai comptés. Ma cellule est vide. Entre ces 4 murs froids et nus, entre son pavé de grès et son plafond de latte, il reste un lit de fer et un tabouret de bois. Je vivrai là. Du dimanche où vous serez venu jusqu'au dimanche où vous reviendrez, il y aura 6 jours de souffrance solitaire pour 1 heure de souffrance partagée. Je vivrai ces 6 jours. Mais porter les insignes du crime, sentir se débattre ma conscience sous cette fatale robe de Nessus qui ne s'attache pas au corps seulement, qui brûle et qui tache l'âme, jamais! Je vous entends me dire que c'est l'humilité qui fait les martyrs et les saints. L'humilité, mon oncle, je la comprends dans les héros. Je l'adore dans le Christ. Mais je ne donne pas ce nom à l'asservissement de ma volonté, à la violence, au sacrifice forcé, au renoncement de la peur. L'humilité, c'est la vertu du calvaire, C'est l'amour des abaissements, c'est le miracle de la foi. Je m'honorerai d'être véritablement humble, mais je rougirai de le paraître si je ne l'étais qu'à demi. Or, mon oncle, laissez-moi vous le dire à cette heure, je ne suis pas assez forte pour m'élever si haut. J'ai des défauts, des préjugés, des faiblesses. Hier encore, enfant du monde, je n'ai point dépouillé toutes ces idées. Je n'ai pas désappris toutes ces maximes. Je me préoccupe de l'opinion des hommes plus que je devrais peut-être. J'ai la vanité de l'honneur humain. Mais je suis femme, très femme. J'ai du moins appris du malheur à ne pas mentir à moi-même. Je me connais, je me juge. Et c'est parce que je me suis jugé que je repousse le vêtement infâme dont on a voulu me salir. À titre d'innocente, je ne dois pas le porter. Et à titre de chrétienne, je ne suis pas dit encore de le revêtir. Mon oncle, je veux souffrir. Je le veux. Seulement, je vous en supplie, intervenez auprès du directeur pour qu'il m'épargne les tortures inutiles et les coups d'épingle anodins, les grandes pauvretés et les petites misères qui semblent être ici la trame même de la vie des captifs. J'ai tant à souffrir dans le présent, j'ai tant à souffrir dans l'avenir. Obtenez qu'on ménage mes forces, et là je n'aurai pas trop de tout mon courage pour subir toutes mes douleurs. Adieu, mon cher oncle. Écrivez-moi, ce sera fortifier mon âme. Aimez-moi, ce sera faire vivre mon cœur. Votre Marie Capelle. Postscriptum. On prétend que la pensée d'une femme est toute dans le postscriptum de ses lettres. Je rouvre la mienne, mon oncle, et je vous dis, je suis innocente. Et je ne prendrai le vêtement d'infamie que le jour où il sera pour moi non plus le signe du crime, mais celui d'une vertu. Croyez-vous que la femme qui a écrit ces lignes ait plus souffert que les filles qu'on envoie à la salpêtrière ou les voleuses qu'on renferme à Saint-Lazare? Oui. Croyez-vous par exemple que Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France et de Navarre, descendante de 32 Césars, épouse du petit-fils de Henri IV, de Louis XIV et de Saint-Louis, emprisonnée au Temple, conduite à l'échafaud dans la charrette commune, exécutée sur la guillotine de la place Louis XV en compagnie d'une fille publique, ait plus souffert que Madame Roland, par exemple? Oui. Croyez-vous que moi, dont la vie est un incessant labeur, que moi qui, grâce à un travail de 15 heures par jour, travail nécessaire non seulement à mon existence intellectuelle, mais encore à ma santé, ai produit 800 volumes, fait jouer 50 drames, croyez-vous que si j'étais condamné à rester ce que j'ai encore de jours à vivre dans une prison cellulaire, sans livres, sans papier, sans encre, sans lumière, sans plume, croyez-vous que je souffrirais plus qu'un homme à qui le refuserait plume, lumière, encre, papier, livre, mais qui ne saurait ni lire ni écrire? Oui, incontestablement oui. Il y a donc égalité devant la loi, mais il n'y a pas égalité devant la punition. Maintenant, les médecins, en inventant le chloroforme, ont supprimé cette inégalité devant la douleur physique, qui préoccupait si fort le bon docteur Larrey. Législateur de 1789, de 1810, de 1820, de 1830, de 1848, de 1860, n'y aurait-il pas moyen d'inventer quelque chloroforme intellectuelle qui supprimât l'inégalité devant la douleur morale? C'est un problème que je pose et qui mériterait bien, il me semble, de concourir au prix Montyon. Maintenant, vous connaissez le théâtre où s'accomplissait ce drame de douleur morale. Marie Capelle elle-même vient de vous en faire la description. Eh bien, dans cette chambre vide, dans ce lit où la prisonnière reste couchée toute la journée pour ne pas revêtir la livrée de la prison. Voulez-vous la voir errant sur les limites de la folie? Écoutez, c'est elle qui parle. L'automne a vu tomber la dernière feuille de sa couronne. Il fait froid, et quoi qu'on allume un peu de feu dans ma chambre, mon mantelet de lit est insuffisant à me couvrir. Il faut que je reste couché tout le jour. C'est bien long, 10 heures solitaires et inoccupées. Je veux m'essayer à vivre quand tout repose et sommeil. La nuit est le domaine des morts. Je veux m'allier à ces âmes errantes qui frissonnent dans l'ombre et qui empruntent au vent les soupirs désolés que leur voix ne peut plus gémir. Une langueur anxieuse s'est emparée de moi. Je la bénirais si c'était le repos. Mais ce n'est que le cauchemar de ma vie, ce n'est que le rêve de ma douleur. Il me semble parfois que mon moi sensitif et souffrant échappe à l'action de mon âme. Je me surprends à prononcer des mots qui ne sont pas l'expression de ma pensée. Des larmes m'étouffent, je veux pleurer et je ris. Mes idées revêtent des formes vagues et fuyantes. Je ne les sens plus jaillir de mon front. Je les vois s'étirer, se traîner au-dedans de mon cerveau, et dès claires elles se sont faites ombre. On dirait l'écho sans le son, on dirait l'effet sans la cause, on dirait presque... Non, 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 je ne suis pas folle, non, ma peur ment, car tous les fous n'aiment pas, et j'aime, et car les fous ne croient pas, et je crois. La torture alla jusqu'à l'agonie. Dans les premiers jours de février 1842, la prisonnière reçut l'extrême onction et vint frapper de sa main amaigrie à la porte du tombeau. Le jour de la délivrance n'était pas venu, la porte resta fermée. Enfin, la rigueur des hommes se lassa. Un matin, on accorda à la prisonnière, on lui accordait la faveur d'une autre cellule. Elle vous a raconté la première, voici la description de la seconde. Ma cellule est carrée, une morte y respire. Je viens de dire à ma garde d'aller en droite ligne de la porte à la fenêtre et de compter ses pas. Ses pieds sont grands. Les miens, dans le même espace, se placeront 2 fois. J'espère cela être au large, et vous? Les murs ont été passés à la chaux, mêlés d'une passée de noir. C'est de la vérité locale. Voici le mobilier. À côté de la porte, une cheminée en tôle dont le tuyau monte obliquement contre le mur, avec des airs de boa constrictor. C'est fort laid, mais c'est chaud. En face de la cheminée, une étagère qui attend mes livres. Sous l'étagère, une table à 2 fins. Près de la fenêtre, une commode, et vis-à-vis de la commode, mon lit caché sous une niche de percale liserée de gris. Plus 2 chaises et un fauteuil en chemise de toile. Voilà tout. Mais n'est-ce pas du luxe pour une pauvre femme qui a passé près de 2 ans sans autre ameublement qu'une chaise? Ah, j'allais oublier ce que j'avais de plus précieux, la sainte et petite chapelle de mes souvenirs. Vers le milieu du lit, j'ai une statuette de la Vierge adossée au mur sur une tablette recouverte d'un apron blanc. De chaque côté sont suspendus les portraits, cerclés en velours noir. L'or est prohibé, de mon père, de ma mère, de mon aïeul et de mon grand-père. Devant moi, au-dessus de la cheminée, j'ai fait placer le crucifix qui était d'abord à mon chevet. Il faut que le regard divin m'aide à porter ma croix. Sous le crucifix se croisent pieusement 2 branches de cyprès cueillies dans le cimetière de Villers-el-Long. Le cimetière de Villers-el-Long. Oh, mes amis, ne me demandez plus rien.
J'achève avec des larmes ce que j'ai dû commencer avec un sourire. On ne remonte pas longtemps le flot de la douleur. Les heures de prison sont les battements du cœur de la prisonnière pendant ces 9 années. Maintenant, ce n'est plus elle qui va parler. Ce sont les voix qui murmureront autour de sa seconde et dernière agonie, qui soupireront sur sa tombe. D'abord, c'est son bon oncle, M. Collard, le père d'Eugène, vieillard de 75 ans. Écoutons-le. Dans les premiers jours d'octobre 1848, dit-il, un dépérissement notable se manifesta dans la santé de la prisonnière. La fièvre ne la quittait plus. Son médecin, si bon, si dévoué, fit part de ses craintes au préfet. 4 professeurs de la faculté de médecine furent chargés de visiter la malade et de constater son état. Ils conclurent à la mise en liberté comme la seule chance de guérison. Ce rapport resta sans résultat. Cependant, le mal empirait rapidement. Après 15 ou 16 mois d'attente, une nouvelle expertise eut lieu. Les conclusions furent les mêmes et peut-être plus pressantes encore. Enfin, la translation de la prisonnière à la maison de santé de Saint-Rémy fut ordonnée. Elle y arriva le 22 février 1851, accompagnée de ma fille. Oh, il n'était plus temps. Les bons et nobles offices du directeur, M. de Chabran, les soins incessants du médecin, le concours charitable de l'aumônier et de la sœur hospitalière, la salubrité du climat, la beauté du lieu, tout fut impuissant. La maladie s'aggravait toujours. Averti de l'imminence du danger, je me rendis en toute hâte à Paris. J'étais porteur d'une supplique pour le prince président. J'en fis une autre que je signais. Je me plaçais sous le patronage d'un homme éminent dont je souffre de taire le nom, et 3 jours après, une lettre m'apprit que ma fille allait être libre. Ma joie devait être plus courte que ma reconnaissance. Arrivé en 36 heures à Saint-Rémy, je pressai entre mes bras non plus une femme mais un squelette vivant que la mort venait disputer à la liberté. Le 1er juin 1852, l'infortuné posait son pied libre dans ma demeure. J'avais mes 2 filles avec moi. Le 7 septembre, l'une mourait aux eaux du Sat, l'autre lui fermait les yeux. L'humble cimetière d'Ornolac a reçu les restes de la morte. Une croix renversée courir à sa tombe. Qu'on ne me demande plus rien. Et en effet, le noble vieillard se tait. Il ne donne aucun détail sur la mort de sa seconde fille. Ce n'est donc pas à lui que nous nous adresserons pour en avoir. Nous n'en avons pas le courage. C'est au prêtre qui a fermé les yeux de la mourante. Au milieu des phrases de conversion avec lesquelles un étranger parle toujours au cœur déchiré de la famille, on reconnaîtra les traces de cette influence étrange que Marie Capelle prenait sur tout ce qui l'entourait. « Monsieur, je suis chargé d'une mission bien pénible auprès de vous. L'intéressante, l'excellente mademoiselle Adèle Collard vient encore une fois d'être frappée de la manière la plus cruelle dans ses affections les plus intimes. Le bon Dieu vient d'exiger de sa sœur son cœur, le plus grand des sacrifices. Sa chère et digne amie, la pauvre Marie Capelle, lui a été ravie comme par miracle. Je vous laisse à penser, monsieur, quel rude coup ça a été pour un cœur si amant, si parfait, vous qui avez eu tant de fois l'occasion d'apprécier depuis longues années sa sensibilité, son affectueux et incomparable dévouement pour sa bonne cousine. Si les sentiments de religion qui l'animent ne l'eussent soutenue, oh, je crois qu'elle n'aurait pas résisté à la douleur que lui a causé le terrible événement que je suis forcé de vous annoncer. Madame Marie Capelle, que j'ai eu l'honneur de voir souvent, et qui avait, par ses vertus religieuses et ses autres qualités distinguées, captiva toutes mes sympathies, a rendu son âme à Dieu ce matin à 9h30. Elle a eu le bonheur de recevoir toutes les consolations que notre sainte religion puisse accorder. En ce moment suprême, elle a été admirable de résignation, de foi, de piété et surtout de charité. Jamais, depuis 18 ans qu'elle exerce le saint ministère, je n'avais eu le bonheur d'être si profondément édifié. Jamais je n'en ai été témoin de plus beau et de plus pieux sentiment. Le bon Dieu a semblé vouloir la dédommager à sa dernière heure de tout ce qu'elle avait enduré de tourments et de souffrances pendant 12 ans. Encore une fois, elle a été admirable aux approches de la mort. Soyez assez beau, monsieur et vénéré confrère, pour faire part de tout ceci à la bonne famille de cette pauvre mademoiselle Adèle. Je n'ai pas besoin de vous prier de prendre vos précautions pour ménager la sensibilité louable de ses dignes parents. Vous êtes trop sage et trop prudent pour ne pas savoir ce que vous avez à faire à cet égard. Veuillez bien rassurer cette excellente famille sur la position de mademoiselle Adèle. Nous tâcherons de contribuer tous de notre mieux à la lui rendre aussi facile que possible. Qu'on ne se mette pas surtout en peine sur la manière dont mademoiselle Adèle se rendra à Montpellier. Sans difficulté d'abord, elle se rendra à Toulouse où elle ira descendre chez la cousine de madame, Marie Capelle. Et de là, elle continuera sans peine son voyage pour se rendre au sein de sa famille. Sa santé est parfaite et elle vous prie de faire agréer à sa famille l'expression de ses meilleurs sentiments. Pardon, monsieur, de mon importunité et daigner recevoir l'hommage, etc. B. Curé aumônier des bains du Sa. Ornolac, 7 septembre 1853. Maintenant, voici la lettre de la personne dans les bras de laquelle Marie Capelle a rendu le dernier soupir. La fidèle amie de la prisonnière, Adèle Collard, ayant été forcée de la quitter 2 heures avant sa mort. Dès les premières lignes, vous reconnaîtrez non plus le prêtre consolateur par état, mais la femme consolatrice par nature. N'est-ce pas qu'en voyant le long retard que j'apporte à vous écrire, la lettre du 27 septembre, c'est-à-dire écrite 20 jours après l'événement, vous ne vous êtes pas dit une seule fois qu'il pouvait y avoir de ma faute? Merci, chers amis. Si je vous connaissais moins, c'eût été pour moi une souffrance de plus. J'eus mardi dernier la visite de Monsieur D. La sensation que sa vue me cause toujours, l'opération douloureuse qu'il m'a fait subir, tout cela a fait de moi une bien pauvre femme, et tous ces derniers jours j'en étais à perdre à chaque instant connaissance. On trouve pourtant de l'amélioration dans la maladie principale. Dans 3 mois, dit-on, il n'y aura plus à cautériser. Si grande que soit ma confiance, monsieur D, je vous avoue que j'ai peine à y croire. Mais parlons d'elle. Je l'écoutais avec mon cœur et ce souvenir sera pour moi ineffaçable. C'était vous, sa seule douleur. Pour vous seule, elle regrettait la vie. C'est là qu'est le sacrifice, disait-elle. Pauvre Adèle, quand je songe qu'elle sera seule demain, sa vue me fait mal. Encore un peu de vie, ô mon Dieu, pour que j'aille mourir au milieu des miens, pour que je rende la pauvre Adèle à sa famille. Pour moi, je ne regrette pas la vie. Je serai si bien sous ma pierre. Comme on souffre pour vivre, comme on souffre pour mourir. Je ne murmure pas, ô mon Dieu, je vous bénis, mais je vous supplie, en m'envoyant le mal, envoyez-moi aussi le courage de le supporter. Puis, comme les douleurs redoublaient, mais c'est trop, souffrir, c'est trop, et pourtant, mon Dieu, vous savez bien que je n'ai rien fait. Oh, mes ennemis, ils m'ont fait bien du mal. Mais je leur pardonne et demande à Dieu qu'il leur rende en bien toutes les douleurs qu'ils m'ont causées. Puis c'était vous, Adèle, qu'elle appelait, qu'elle recommandait à tous. Puis c'était une prière et toujours la résignation la plus grande. Ai-je bien tout recueilli? Oh, je n'oserais en répondre. Je souffrais tant de la voir souffrir. J'étais si malheureuse de mon impuissance à la soulager. Et puis je sentais si bien tout ce que je perdais. J'étais si fière de cette affection qu'elle me témoignait. Je lui étais si reconnaissante de ce qu'elle avait su lire en moi, ce qu'avec mon naturel timide je n'aurais jamais osé lui dire, à elle si supérieure. Que vous êtes bonne de m'avoir envoyé ce précieux souvenir. Vous m'écrirez quelquefois, n'est-ce pas? Nous parlerons d'elle. Vous me parlerez aussi beaucoup de vous, comme à l'amie la plus vraie. Je vous prie d'offrir à votre bonne famille mes sentiments les plus respectueux. Ma sœur et ma mère me chargent de vous dire combien vous lui êtes sympathique. C'est que je leur ai dit quel ange vous êtes. À bientôt, n'est-ce pas, ma bonne amie? Je vous embrasse de tout mon cœur. Clémence, lundi 27. Un an après, c'est-à-dire le 20 septembre 1853, Monsieur Collard recevait cette seconde lettre du brave curé d'Ussat. Nous la citons entièrement, elle est caractéristique dans sa naïve bonté. « Mon cher monsieur, la confusion que j'éprouve du long silence que j'ai gardé à votre égard ne saurait être égalée que par la contrariété qu'il vous aura causée à vous-même. Vous devez m'avoir trouvé bien peu honnête de ne pas avoir répondu plus tôt à votre bonne lettre du 22 juillet. J'avoue que jamais accusation n'a été mieux fondée que celle-là. Cependant, quand vous aurez connu les raisons qui m'ont forcé à ce silence, vous conviendrez que je n'ai été que malheureux, mais pas coupable. À peine eus-je connu vos intentions relativement aux objets que vous désirez placer sur le tombeau de la pauvre Madame Marie, que je m'empressais de traiter avec Blasi pour la confection et le prix de la grille. Il voulut absolument 120 francs, dont je consentis à les lui donner. Il la fit pour le temps indiqué, bien conformément au plan. Elle fut aussi mise en place avant la fin de juillet. Le travail de cet ouvrier m'aurait parfaitement convenu s'il n'avait usé de ruse en refusant de peindre la grille, alléguant qu'il n'avait été tenu de faire que ce qui avait été convenu. Et parce que j'avais oublié de faire la réserve que le fer serait peint, afin qu'il ne s'oxydât point, il n'a point voulu mettre cette dernière main à son œuvre. Mais que cela ne vous tourmente pas, je la ferai peindre et ce ne sera qu'une petite dépense de plus. Toujours est-il que je suis très fâché contre Blasi, qui a manqué de délicatesse en ce point. Quant à la croix, voilà l'objet qui a causé toute ma douleur et m'a empêché de vous donner plus tôt de mes nouvelles. Pour qu'elle fût bien confectionnée, j'eus le malheur de m'adresser à un très habile ouvrier de Pamiers, qui se trouvait à Ussat vers la dernière quinzaine de juillet. Il fut convenu que je lui paierais 12 francs, à la condition qu'il la soignerait beaucoup et qu'il me l'enverrait vers la fin de la semaine. Nous traitâmes le mardi, et loin de la recevoir au temps indiqué, 2 semaines après, elle ne m'était pas encore arrivée. Contrarié de ce retard, je lui écrivis par la poste pour la lui réclamer. Il me répondit qu'elle arriverait le samedi suivant et que je la fisse prendre au pont du pain. Elle n'arriva pas plus cette fois que l'autre. Fâché fortement de ce nouveau délai, je lui écrivis une autre lettre dans laquelle je lui exprimais toute mon indignation sur son manque de parole. Enfin, après m'avoir fait enrager plus d'un mois et demi, il a fini par me l'apporter lui-même. Et certes, celui-là n'a pas été comme Blasi. Il a fini son travail en tout point et je puis vous assurer qu'il a fait une jolie pièce. Elle est maintenant en place et produit un bel effet par l'originalité de la pose et par la confection de l'objet. Et à toutes ces contrariétés, je vais en ajouter encore une autre, ou plusieurs autres desquelles vous allez prendre part. Vous avez annoncé que le saule planté par moi sur la tombe avait bien réussi et qu'il était très beau. Eh bien, il a fallu qu'il entrât pour sa part dans le chagrin que j'ai éprouvé. Chaque étranger qui est venu visiter le tombeau, et tout le monde y est venu, le chemin dans le lac est constamment encombré. Chaque personne, dis-je, a voulu avoir son morceau du malheureux saule et on a fini par le faire sécher. J'ai eu beau adresser des prières, j'ai eu beau me fâcher pour qu'on le respectât. Menaces et prières, tout a été inutile. Les fleurs également ont été enlevées, chacun a voulu emporter une relique. Mais que ceci ne vous afflige pas, au contraire, vous devez être flatté de la vénération dont les dépouilles de la pauvre défunte sont honorées. Le mal fait à l'arbre et aux fleurs est facile à réparer. Je planterai un nouveau saule et de nouvelles fleurs et tout sera fini. Qu'ajouter à cela? Les dernières lignes écrites par ce digne monsieur Collard, par ce vieillard qui proteste au nom de ses 75 ans et de ses cheveux blancs contre le jugement qui a frappé sa nièce. Et maintenant, veut-on savoir si j'ai cru cette femme coupable? Je réponds. Retenue prisonnière, je lui avais donné pour compagne ma fille. Devenue libre, je lui aurais donné pour mari mon fils. Ma conviction est là. Collard, Montpellier, 17 juin 1853. Marie Capelle est morte à l'âge de 36 ans, après 12 ans de captivité.